je pense qu'il y a un aspect aussi, c'est l'aspect créatif. C'est-à-dire, je suis un créateur, et suis-je aussi créateur que je pourrais l'être si j'utilise le même outil que tout le monde? Est-ce que choisir un outil un peu différent ou aller adapter l'outil à mon envie créative, est-ce que ce n'est pas partie de la démarche qu'on peut avoir? Que ce soit avec des capteurs, avec un Arduino, on peut utiliser plein de trucs différents. Et le logiciel, c'est aussi un de ces trucs, finalement. Et aller se dire, tiens, je prends un logiciel un peu spécial, ben, ça va me changer mes habitudes, mais peut-être qu'en changeant mes habitudes, ben, je vais me découvrir des nouveaux trucs que j'aurais pas découvert, dans des nouvelles voies, des nouveaux sons, des nouveaux assemblages, je sais pas. Et puis, si je bidouille un peu, ben, peut-être que je vais mal coder, mais peut-être qu'en codant mal, je vais découvrir un truc génial. Pourquoi pas, après tout. Et je pense que ça aussi est super important. Enfin, moi, j'ai fait des études d'art et, au début des années 90, on nous enseignait Photoshop, c'était Photoshop 2 à l'école, et je trouvais ça débile. Je trouvais ça débile parce qu'apprendre à superposer des calques, à faire des rectangles sur un truc, c'est pas ça très créatif. Quoi. Donc Léonard de Vinci, il n'allait pas acheter des bouts de tableau et puis les assembler sur sa toile. Donc je pense qu'il allait créer sa matière, il créait ses pinceaux, il créait tout ça lui-même. Et ça nous pose beaucoup de problèmes de conservation à l'heure actuelle parce que on ne sait pas comment faire, mais en même temps, ça fait partie de sa patte. Quoi. Et je pense que le logiciel libre, c'est aussi ça. C'est aussi de se dire, j'utilise le GIMP, et ben, je veux tel effet, ben, je vais me débrouiller pour avoir cet effet-là. Quoi. Et si l'outil ne le fait pas, ben je veux avoir cet effet-là. Et peut-être que si je ne sais pas le faire, ben je vais contacter des gens que peut-être ça va intéresser. Donc au SP, des milieux artistiques bruxellois passent souvent des accords avec des développeurs. Parce que les développeurs ont marre d'être enfermés sur leurs ordi. Donc ils adorent rencontrer des artistes qui vont leur donner des challenges qui changent un petit peu. Et donc, et voilà, donc on peut faire ça. Puis on peut aussi payer un prestataire et dire bah, tiens, j'ai un concert, je veux un truc original. À développer une journée et puis bah, je suis super pour mon concert et c'est bon.
Avec les économies faites sur les licences.
Avec les économies sur les licences, voilà, c'est ça, on développe son côté créatif, son côté en effet consommateur.
Puis, sur l'effet de dépendance, je ne sais plus c'est qui en a parlé tout à l'heure, il y a aussi le fait qu'avec le logiciel libre, exemple, moi, je monte un groupe et puis on a besoin d'un certain plugin audio sur scène. Moi, je ne sais pas le développer. Par contre, avec les gens de mon groupe, on va mettre 50 balles de côté chacun. Et puis, on va chercher un développeur qui va bien vouloir développer ce plugin. Et ce développeur, en fait, il ne sera pas obligé de venir de chez Ableton. Il ne sera pas obligé de venir de chez Pro Tools, de chez Steinberg. Et là aussi, il y a un côté de liberté, c'est que on ne sera pas dépendant de la boîte qui possède le logiciel. Ce qui veut dire qu'après, on peut rentrer dans une considération comme faire bosser des gens en local, tout ça.
Ouais, c'est pas des stagiaires.
Ouais, comme ça, on aura deux plugins pour le même prix. Ouais,
buggés, mais ils seront
comme les routes du rock à Saint-Malo. Ils font bosser des stagiaires sur des postes à temps plein.
Voilà. Bah, ça c'est moins cher.
sur les usages, je vais dire quelque chose que je trouve vraiment très pratique, assez pragmatique, quoi, ce que je vais dire, mais avec le logiciel libre, c'est que quand on fait des ateliers de découverte, que ce soit pour des pratiques musicales ou graphiques, c'est que les gens peuvent partir avec. Alors, on choisit plutôt des logiciels qui sont multiplateformes pour que passer au logiciel libre, ce ne soit pas forcément se réinstaller un Linux. Mais des trucs qui fonctionnent aussi sur Windows et sur macOS, et c'est déjà je trouve que c'est très important de pouvoir transmettre et conserver ce qu'on apprend dans des moments d'atelier de découverte comme ça, et de pouvoir le reprendre chez soi et le retravailler. Et ça, c'est pas forcément possible avec en dehors du logiciel libre. Ils ne sont pas.
Enfin, c'est vrai que le logiciel libre, c'est le logiciel, c'est pas l'OS aussi. Quoi.
Oui, c'est une question un peu une étape différente.
C'est une fourchette à faire, et maintenant j'ai l'impression que les gros logiciels libres, tu vas prendre GIMP ou MMS, bon, tu fais de la musique avec, ils ont tendance à essayer de mettre multiplateforme. Justement. Mmh.
Voilà. Mais c'est toujours un challenge parce que les outils libres vont toujours fonctionner, être plus simples à coder plus approprié sur un système Linux que sur un système alien qui ont leurs propres outils chacun, et dès qu'on utilise des outils différents, on se retrouve avec des problèmes qu'on n'ont pas les logiciels propriétaires sur ces plateformes parce qu'ils utilisent les outils propriétaires de la plateforme.
Il faut qu'il y ait du fond derrière, en fait. En général, c'est ce qui se passe sur ces logiciels-là. C'est quand même qu'il y a aussi... Enfin, comme il y a des mécènes ou des choses comme ça qui viennent dire, qui veulent que ça développe.
Oui, ça peut permettre aussi aux gens de mettre un pied dans l'usage d'un logiciel libre, même sans le savoir.
Ouais, je rebondis un peu là sur ce que tu disais sur le fait que l'économie sur les licences, ça permet éventuellement de payer d'autres choses. Alors, sur le jardin moderne, ça quand même... Enfin, du coup, puisque c'est nous qui avons mis en place ce studio à l'époque, ce que ça a permis notamment, enfin si tu me dis si je me trompe, mais c'était en gros, au lieu de juste acheter un studio avec du matériel et du logiciel, en fait, le studio là, il va être composé de matériel et de logiciel et d'une formation, notamment pour Simon qui a du coup pris la relève derrière, à l'usage de ce studio. Parce que bon, il avait en plus une visée pédagogique, mais et je pense qu'en fait, enfin j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je suis content de voir qu'il y a des gens des CNR hein, qui sont là, parce qu'en fait, il y a quand même vraiment un enjeu hyper fort. À mon sens là-dessus, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas vrai que pour le logiciel libre, mais en l'occurrence, les développeurs de logiciels non libres, enfin les éditeurs de logiciels non libres, ils ont des finances beaucoup plus larges là-dessus. Moi, j'ai travaillé dans des centres de formation de techniciens du son, avant que vous me sollicitiez du coup, et on vous propose d'être une école Mac ou Apple School, pardon. Et donc, enfin voilà, et du coup, il y a des fournitures en matériel et tout, enfin c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire, les mecs savent très bien que si on forme des techniciens son à Mac, déjà, donc premièrement, puis éventuellement après, donc, du coup, à Cubase ou Pro Tools ou quoi, quand ils vont sortir de là, bah, ça devait être ton cas quand t'as fait tes écoles de graphisme, quand tu sors de là, ton premier réflexe c'est quand même d'utiliser ces logiciels-là, parce que c'est ceux que tu sais utiliser, quitte à ce que ce soit du craqué, ils s'en foutent à la limite, hein, que dans un premier temps tu utilises du craqué, ça va très bien. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu sur le fait de justement former. Alors, former, il ne faut pas forcément être spécialiste, hein, mais en fait, il y a beaucoup de formations par les pairs dans le livre. C'est ça, enfin, c'est un des trucs que tu racontais tout à l'heure. Mais je ne sais pas où t'en es, toi, maintenant, Simon, parce que l'idée, c'était quand même que. Alors, je crois qu'on n'a pas été jusqu'au bout de cette histoire, parce que bah, je ne suis pas si disponible que ça, ni vraiment très local. Mais il y avait l'idée de dire qu'à terme, c'était toi qui allais devenir formateur ici pour justement pouvoir transmettre de nouveaux trucs à CR. Et c'était vraiment l'idée quand on a monté ce studio, c'était pas de dire. Voilà, on lâche la maille, on achète le package et puis il est là. Et puis le temps où ça fait joli, où on fait l'inauguration, ça reste. Puis ça va finir par gentiment crever, finir dans un placard, parce que c'est quand même souvent ce qui se passe dans les structures. Là, il y avait l'idée de dire, on essaie de faire en sorte que ce truc-là puisse se pérenniser, notamment par le fait d'avoir des gens qui développent des compétences localement. Alors, comme je disais tout à l'heure, comme tu m'appelles pas beaucoup, j'imagine que tu as dû apprendre à te démerder tout seul.
Cette scène est très mignonne.
Tu réponds, parce que j'aimerais avoir quelques précisions quand même sur l'économie des licences. Au final, là, en l'occurrence, on a quand même pu faire un don de 800 euros à la Fondation Debian avec ce qu'on a facturé à l'histoire de la moderne. Histoire de faire un petit retour d'ascenseur quand même. Oui, que vous ne pouvez pas forcément faire avec le montage financier de la subvention.
Et d'ailleurs, enfin, il y aurait plein de choses intéressantes à dire sur l'aspect gestion de structure, gestion d'entreprise. Bon, quand on est une association, d'ailleurs, quand on est aussi une entreprise à but lucratif, on peut solliciter les collectivités et l'État pour avoir des subventions, selon un certain nombre de conditions. Et donc, on a eu des subventions d'investissement pour équiper ce studio, assez modeste, hein, c'était pas un studio non plus... incroyablement professionnel, mais on a eu une subvention d'investissement de la ville et de la région, en l'occurrence. Et donc, ça finance jamais 100% du coût du studio, mais je ne sais plus ce que c'était, peut-être 70%, le 30% à notre charge, 70% financé par des subventions région et ville. Et donc là, on a, quand on a voulu faire un don aux développeurs, on ne pouvait pas avoir de facture, parce que c'est un don, c'est pas un achat de service ou de bien. Et la ville nous a dit, ah non, les subventions d'investissement, elles sont versées sur présentation de facture d'achat de matériel ou de prestation. On dit, bah non, mais là, on n'achète pas de Microsoft et de Cubase. Mais du coup, on voudrait faire un don aux développeurs de Hardour. Et donc, la ville a refusé de nous verser la part de subvention. On a bricolé, on a menti, mais on a un petit peu contourné les règles pour quand même faire le truc. Et donc, ça a engagé une discussion avec la ville, de dire, bah, c'est quand même dingue, parce que vous nous incitez à faire du développement durable, à avoir des politiques sociales équitables, etc., etc. Mais quand on veut faire bien, vos systèmes administratifs nous l'interdisent. C'est-à-dire, je peux vous présenter une facture de 5000 euros de Microsoft, je vais avoir les subventions pour ça. Mais si je veux faire un don de 5000 euros à Ardour ou autre chose, vous pouvez pas. Il faudrait faire évoluer le truc. Et ça, on a régulièrement ce souci. C'est-à-dire que depuis 2 ans, toutes les pièces jointes envoyées par la ville de Rennes, bon, forcément nous, beaucoup d'échanges avec la ville de Rennes, sont des winmade.dat. On a trouvé comment les ouvrir, mais une espèce d'encapsulation, une sorte de zip géré par Outlook. Et donc, pour les ouvrir, chez nous, c'est une vraie merde. Il faut passer par 2-3 trucs de décompression parce que c'est un format de compression propriétaire de Microsoft qu'on ne peut pas ouvrir aussi simple qu'en cliquant dessus. Et donc je leur ai dit, mais vous avez tous les logiciels en main pour mettre des pièces jointes autrement. Mais personne, à la ville, n'est formé. Eux, on leur a dit, il faut faire comme ça, ils font comme ça. Et dernier truc, ils ont mis cette année en place une charte d'engagement pour le développement durable. C'est très bien, ils veulent inciter, comme ils disent, ils veulent nous responsabiliser, parce qu'on est quand même très... à mieux respecter l'environnement, etc. Donc, sur le fond, c'est très bien, c'est que les associations, notamment celles qui organisent des concerts, s'engagent à mettre plutôt des gobelets recyclables consignés que des gobelets jetables, à faire du tri de déchets, etc. Donc c'est très bien. Et donc on reçoit un PDF en couleur avec un fond en photo qui est la charte d'engagement pour le développement durable pour nous responsabiliser. Et puis déjà on a des questions avec 4 lignes pour répondre, puis on peut pas renseigner plus que 4 lignes parce que le PDF est bloqué. Et en fait c'est un format de PDF. Alors je n'ai pas encore réussi à contourner le truc, mais on peut pas commencer à remplir le document et enregistrer et terminer plus tard. Il faut tout faire d'un coup parce qu'on peut pas enregistrer, et donc il faut imprimer le PDF et après le scanner pour leur renvoyer. Et déjà quand ils nous l'envoient, ça fait un truc genre 2,3 mégas et c'est le document de la ville pour responsabiliser les assos. Et donc ça montre aussi qu'on est dans un monde où on lutte contre une culture dominante. Enfin, il y a une culture mainstream de la musique qui peut être incarnée par, je sais pas quoi, Universal Music ou MTV ou Spotify ou Deezer.
Parce qu'ils sont facilement.
Et il y a une culture dominante du logiciel, et même les institutions publiques qui devraient être les premières à utiliser du libre dans leur relation avec nous, elles sont toutes infestées, alors plus souvent de Microsoft que de Mac. Et donc voilà, c'est pareil pour l'éducation nationale, c'est pareil pour même le ministère de la Défense, quoi. Tout le ministère de la Défense, c'est Microsoft. On se dit c'est complètement fou. Mais nous, petit asso, dialoguer avec la ville, la région, le ministère de la Culture et autres, c'est en fait vachement plus de travail parce qu'il faut à chaque fois trouver une manière de lire leurs fichiers quand nos logiciels n'ouvrent pas comme ça spontanément certains fichiers propriétaires, détourner des PDF pour pouvoir mettre le bon nombre de lignes qu'on veut, etc. Et donc c'est quand même...
Le problème, c'est eux. Parce que le problème, c'est quand tu communiques à quelqu'un, t'assurer que la personne va pouvoir recevoir ton message.
Mais juridiquement parlant, ce sont nos partenaires et ils nous versent des subventions parce que notre projet s'articule avec leur politique. Juridiquement, c'est ça. Théoriquement, en pratique, si je ne leur rends pas le fichier au bon moment... les subventions ne sont pas versées. Si les subventions ne sont pas versées, parce qu'il y a des licenciements économiques ou une cessation d'activité, c'est ça le truc, quoi.
Après, c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai que les administrations sont particulièrement dures. Moi, je suis, Timothée, il l'a pas dit, mais les chefs de projet, j'ai compris qu'une structure éducative, et avant, était gérée par une autre personne, pas par le développeur principal. Et en 2008, quand il y a eu la grosse crise économique, Sarkozy avait donné plein de fric pour les écoles, et machin, pour ses DP en informatique, en logiciel. Et Bruno, qui était prof d'ailleurs, à l'époque, il a dit attendez, mais moi j'ai un truc, moi je le donne, je l'installe dans toutes les écoles, si vous voulez, c'est facile. Et puis là, le ministère, il a dit non, monsieur. monsieur, pas question, vous êtes prof, vous êtes prof, et puis de toute façon, je ne veux pas prendre votre logiciel parce qu'il n'y a pas de facture non plus. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de dire des gens du milieu développent des choses qui correspondent aux besoins des autres personnes du milieu, et les supérieurs hiérarchiques disent non, on ne peut pas installer ça parce que. Donc c'est vrai qu'on est dans un système qui se mord un peu la queue quelque part, et puis bah, les grosses boîtes viennent derrière, et puis ils disent, bah, attendez, moi je peux te présenter une facture, hein, donc ça va, je suis content.
Et je pense qu'il y a des vrais enjeux à ce niveau-là dans l'éducation, etc., mais au niveau local, ça marche. C'est-à-dire qu'au niveau national, ils décideront jamais d'installer le logiciel, mais au final, au niveau local, les gens finissent par le faire. Moi j'enseigne à 2-3 endroits à l'université, il y a des Macs partout, les étudiants ils ont tous des Photoshop craqués, alors que c'est par exemple des journalistes et qu'ils ont des vraies histoires de sécurité, ils installent des logiciels qu'ils téléchargent sur des sites russes, dont ils savent une demi-date d'où ils viennent. Et par contre, effectivement, bah, on peut quand même en local installer des logiciels qui ne sont pas validés par l'éducation nationale de très haut. Et surtout, comme le disait Pierre, c'est assez important, moi je trouve, le fait que les étudiants puissent repartir avec les logiciels. Moi, j'ai eu à l'époque, quand j'étais étudiant, j'ai eu des cours de montage vidéo, et bah, j'avais pas de quoi m'offrir à vide. J'avais pas envie de pirater à vide, et de toute façon, installer à vide, c'est une galère pas possible. Alors qu'à l'inverse, il y a des logiciels qui peuvent être potentiellement un petit peu moins bien ou même pas, qui font le boulot très bien, et pourtant dans les écoles, la version officielle s'est installée à vide. Par contre, il y a des endroits où les gens d'eux-mêmes disent bah non, ce logiciel-là, ça nous coûte 10 000 balles tous les 4 ans, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire avec 10 000 balles, et qui, en local, décident de faire ça.
Après, la question, je vais parler de la musique, si tu veux, mais je sais que par exemple, un logiciel comme Blender, le chef de graphisme en 3D, il est enseigné dans beaucoup d'écoles, sans même que les gens sachent que c'est du logiciel libre. Donc est-ce qu'on a la même chose avec la musique? Non, pas, nous on a un centre de formation, on fait que du libre. On fait pas de musique, enfin un peu. Mais est-ce que du coup ce qu'on a fait en graphisme, ça peut se retrouver après ailleurs?
Il y a plusieurs étages. Du coup je me permets de te répondre vu que je me suis retrouvé dans ce cadre-là sur pas mal de centres de formation finalement en France. En gros, alors sur la partie, on va dire, donc là on va peut-être rentrer dans le vif justement ce qui pourrait vous intéresser, sur la partie édition de partition, qui est une partie de la MAO, en fait on n'en parle pas forcément super souvent, mais dans toutes les licences de musicologie et ce genre de choses-là, ou comment ça s'appelle, diplôme de dumiste, ou enfin, musicien intervenant, tout ça, c'est une question qui se pose. Là, en fait, très souvent, il y a un logiciel qui s'appelle MuseScore qui est proposé et qui est un logiciel libre. Multiplateforme pour le coup, l'édition de partition. Et sur ce point-là, oui, ça va. Même si c'est quand même souvent présenté avec un savonnage de planche assez sévère qui t'explique que c'est un petit logiciel sympa et que bon, bah, le jour où tu auras des sous, t'achèteras Sibelius et puis tout se passera mieux.
Tu n'as pas utilisé une pomme ?
Alors non, enfin, je ne sais pas si. Bon, rentrons pas dans ce détail, mais. Oui, non, disons. Par contre, sur la partie audio, je pense que ça rejoint ce que tu racontes sur Avid. Là, on est face à un truc qui est beaucoup plus complexe, parce que déjà, voilà, il y a les Apple School et tout, il y a vraiment une pression qui est mise par les éditeurs pour que les profs achètent ça, mais en plus, enfin, les profs, les écoles. Mais en plus, il y a vraiment des guerres de chapelle, là, à ce niveau. Mais comme tu as avec Avid et Final Cut et ce genre de choses. Et du coup, moi, quand je suis intervenu sur des modules de son libre, ça a toujours été. J'étais l'exotisme du truc. Hein, ça voulait dire qu'il y avait un directeur de section qui était un peu ouvert et que c'était cool que les élèves sachent que ça existe. Mais enfin, pareil, j'avais généralement une planche bien savonnée avant pour dire que bah, j'avais présenté le logiciel qui était gratuit. C'était comme ça que c'était présenté. Bon, enfin, ils sont. Oui, ok, très bien, gratuit. Bon. Et je me cognais l'install et tout ça avant pour être sûr que ça marche. Et j'ai eu des trucs complètement dingues avec des collègues qui effacent l'install. Enfin, vraiment des volontés un peu négatives, disons, face à ça. Parce qu'en fait, dans les écoles de son aujourd'hui, enfin de techniciens son, donc déjà, on fait beaucoup trop de logiciels à mon avis. Hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'équiper une salle avec 21 ordinateurs. Avec des logiciels, ça coûte moins cher que d'équiper une scène comme ça, sur laquelle on va pouvoir faire de la pédagogie. Or, quand on est technicien son, à la fin, il y a beaucoup plus de chances qu'on fasse ça que de l'ordi. Mais donc ça, c'est une question un peu annexe, mais moi, dans toutes les écoles que j'ai faites, il y en a une qui avait des plateaux. Les autres, c'était des salles dans lesquelles on avait, voilà, 15 morts. Je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Et donc, voilà, ce qu'on apprend, c'est pas à utiliser un logiciel multipiste. Ou un logiciel séquenceur MIDI ou quoi. Ce qu'on apprend, c'est à utiliser Cubase, ou Pro Tools. Il y a des plaquettes, bon, on vient du Mans, donc il y a l'ITEM, bon, par exemple, qui a un centre de formation au métier de la musique, il y a notamment en formation son. J'ai enseigné là-bas, quand j'enseignais là-bas, on apprenait 17 logiciels. Voilà, en formation son, donc et t'es compétent sur ces logiciels en fait. Mais ça suggère que en fait, ce que tu as appris sur Cubase n'est pas transportable sur transposable sur Pro Tools, etc. Et du coup, ça veut dire que quand tu sors, tu as intérêt à avoir le meilleur logiciel. Enfin, on t'a vendu le truc comme ça. C'est-à-dire, si tu utilises Cubase, c'est pas parce que c'est ce que tu sais utiliser, c'est parce que c'est le meilleur. Alors évidemment, c'est complètement con parce qu'à un moment donné, tu vas croiser quelqu'un pour qui c'est Pro Tools le meilleur. Et enfin, ça va être assez difficile de trancher. Si vous allez sur Audiofanzine, qui est un forum de musiciens et techniciens audio, c'est bourré de ça. C'est, enfin, je veux dire, les trois quarts des discussions tournent autour du fait de savoir si c'est Cubase, Pro Tools ou quoi, qui est meilleur. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois en formation, mais sur des questions complètement hallucinantes. Enfin, bon, voilà, position de formateur, c'est pas toujours évident. On essaie d'être suffisamment large pour pouvoir répondre aux questions des élèves, puis des fois, ils te coincent. C'est sur des trucs, justement, de cet ordre-là, quoi, où on me demandait la qualité d'Ardour par rapport à Cubase ou quoi, sur des questions où, pour le coup, j'ai pas su répondre, donc alors, en plus, ça m'a tourné directement voilà, dans la position du ah, « ouais, ils vendent des petits logiciels gratos, c'est sympa, mais bon, hein, c'est un peu de la merde. » Pour rentrer chez moi et me rendre compte que la question était complètement con, enfin, moi, je ne rentre pas dans le détail, mais qu'en fait, au contraire, elle signifiait presque que Pro Tools faisait de la merde, en fait, enfin, et que du coup, si cet élève qui me posait cette question et me mettait en défaut comme ça en pensant montrer que Pro Tools était meilleur pour cette raison-là, c'était quand même qu'il y avait une incompréhension fondamentale du système, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, non. Il y a très très peu de logiciels libres enseignés dans les écoles de techniciens son. Et pour tout dire, en fait, jusqu'à il y a 4 ans, je faisais pas mal de formations. Je n'en fais plus. À la fois parce que ça m'a un peu fatigué, mais aussi parce qu'on ne me rappelle pas. Donc, ça donne un ordre d'idée sur le fait que ces modules son n'existent plus. Voilà, enfin, c'est donc... non, pas tant que ça, quoi. Et là où ça existe, pour finir, c'est pas chez les techniciens son. En gros, ça va être dans des écoles de musicologie, dans des trucs comme le Jardin Moderne, sur des formations un peu annexes, ou alors dans des MJC ou des trucs comme ça, sur de la formation de beaucoup plus jeunes enfants, enfin beaucoup plus jeunes publics. Et je trouve ça pas mal, en fait, à l'usage, parce que à 14 ans, on t'a pas dit encore que Pro Tools c'était le meilleur logiciel du monde. Par contre, quand tu te retrouves au centre de formation technicien du spectacle à Bagnolet, là, et tu arrives devant une classe de 22 élèves qui ont déjà pas mal d'expérience derrière eux et tout, et qui sont vraiment persuadés que le logiciel qu'eux, ils ont appris est meilleur, bah, là, voilà, hein, tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, c'est compliqué. Ouais, c'est
cool. Là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tout à l'heure, tu t'affirmais, par exemple, que moi, j'avais appris que sur
Non, je ne sais
pas. Affirmé, je supposais plutôt. Mais du coup, dans mon DUT, j'ai eu la chance d'apprendre autant sur la suite Adobe que sur des logiciels libres, ceux que j'utilise aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'enseignement, en fait, dans l'apprentissage de ces outils-là, les logiciels, donc par exemple InDesign, sont présentés un peu par métonymie comme l'APAO. On va t'apprendre l'APAO, on va t'apprendre ça. Sauf qu'on t'apprend uniquement à utiliser ce logiciel-là. Et en fait, quand on veut changer de logiciel, on a tellement un schéma de pensée de façon de faire qui est dicté par la façon de faire du logiciel qu'il faut limite changer de paradigme pour se dire comment je vais faire ça. Par exemple, sur Photoshop, un effet qu'on a l'habitude de faire en deux clics, on ne va pas le trouver sur GIMP. Du coup, on va se dire que GIMP est moins bien parce qu'il ne se fait pas de la même façon. Alors qu'en fait, il est totalement faisable, mais d'une manière totalement différente. Et ce n'est pas un filtre automatisé. Donc, il y a la notion d'apprentissage, la notion aussi, mine de rien, à côté de ça, qu'il y a la relation au pair ou la relation au partenaire, qui est, comme Guillaume disait, vis-à-vis, par exemple, de la ville, qui est aussi un frein, je pense... on se dit que ça va être bloquant de travailler avec des personnes qui utilisent ces suites-là. S'ils utilisent ces suites-là, c'est parce qu'ils ont appris sur ces suites-là et aussi parce qu'ils ont appris sur ces suites-là parce que les gens l'utilisent. C'est un peu un sacrifice.
Après, il y a déjà un problème de compétence. Moi, j'enseigne à l'université depuis 15 ans. En tant que personnel de l'université, à mi-temps, j'ai souvent eu des collègues qui ont fait des formations GIMP ou Scribus, par exemple, en licence art plastique ou des trucs comme ça, alors que je fais partie de l'équipe. Et que je suis le membre fondateur d'Inkscape et que j'ai contribué à d'autres logiciels que je connais parfaitement bien. Et donc on se dit, mais c'est incroyable que ces collègues-là, qui ne connaissent pas les outils plus que ça, vont faire le cours à la place alors que moi je suis dans la salle à côté. qui disent aux étudiants quand GIMP peut pas convertir une image en CMJN, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est un petit logiciel, c'est gratuit, on peut pas tout faire. Alors qu'en fait, la vraie solution, c'est que depuis 20 ans, on travaille plus en CMJN, parce qu'on travaille avec des profils colorimétriques, et qu'on essaye de garder l'image en RVB jusqu'au bout de la chaîne, donc jusqu'à l'imprimante, quoi. Et que, pourquoi il n'y a pas de CMJN dans GIMP? Bah parce qu'on ne travaille pas comme ça dans l'industrie. Et que c'est tout. Et que les gens restent avec des attitudes anciennes. Il n'y a pas toutes les images qui sont converties en CMJN, alors que c'est tout comme ça qu'on fait. Et donc ça pose quand même plein de soucis, à la fois de changement d'habitude des personnes qui connaissent, parce que les techniques évoluent, et puis il faut aussi apprendre les nouveautés des fois. Mais aussi, des fois, dans l'enseignement, chacun tire un petit peu la serviette à son truc. Alors moi, j'ai besoin de faire des heures, bah, je vais faire des heures de Scribus parce qu'il y en a. Alors qu'en fait, le voisin est beaucoup plus compétent. Et au final, les étudiants repartent avec l'idée que c'est mauvais, alors que c'est aussi bien, peut-être différemment, hein, mais c'est aussi bien souvent.
Et par rapport à l'usage, du coup, c'est peut-être qu'il ne faut pas apprendre des workflows aux gens, mais qu'ils admettent qu'ils doivent plutôt apprendre des principes.
C'est théorique là après.
C'est un peu pareil, c'est un peu ce que disait Timothée tout à l'heure, moi je suis d'accord avec ça. Après, les propriétaires vendent des marques, donc c'est normal qu'ils travaillent à ça, à ce que dans ta tête s'inscrive que tous, c'est mieux que les autres, etc. Et que ce qu'on peut mettre en valeur quand on veut le présenter différemment, c'est plutôt donner des moyens, des procédures, des workflows, on peut l'appeler comme on veut, quoi. Je veux dire, voilà comment on enregistre son groupe en multipiste sans mettre en avant la marque du logiciel qui finalement est un truc pratique pour en discuter, mais qui on s'en fout dans le logiciel de la marque.
C'est vrai que, enfin, on en parlait cet après-midi avec monsieur Simon. Il y a une réaction. Alors moi, je suis aussi amené à faire formation comme il est. J'ai bien aimé ce que tu disais, Aurélien, que en fait on a vachement plus de latéralité quand on bosse pour des MJC, des médiathèques, des trucs comme ça. Ouais. mais carré, enfin, on est vachement mieux parce qu'on peut faire plus vraiment dans l'univers du libre, en dehors du logiciel aussi, hein, dans tout le gros mouvement qui est plutôt un mouvement de partageux, on va dire, pour le faire vite. Et la guerre qui est imposée par les marques commerciales de voilà, on parlait Cuba de tous machin, en fait moi je rentre jamais là dedans parce que c'est un piège, ce truc là sinon on commence à vouloir dire on rentre dans leur jeu à la con qui est juste un jeu de commercial force de vente de merde. Si on commence à rentrer en disant oui mais avec Ardour on peut faire ci, on peut faire ça, on peut, c'est que des outils tout ça, quoi. C'est pas des buts en soi, en fait, tous ces logiciels. C'est comme le mec qui est charpentier, ouais il a des marteaux, il a des scies, mais il va pas défendre ses outils en tant que comment il les utilise, mais quel est son intérêt, surtout quand tu as un mec, je sais pas, pour filer la métaphore sur le charpentier à l'ancienne qui fabrique ses outils lui-même, on s'en fout, c'est qu'un outil, on n'a pas besoin de dire que c'est mieux. Je pense qu'il faut mettre le pied à l'étrier, qu'il faut montrer ce qu'on peut faire avec, qu'il faut apprendre du généraliste, apprendre à utiliser un séquenceur, un synthétiseur, qu'est-ce que c'est une enveloppe ADSR, qu'est-ce que c'est une reverb. Parce que ça, c'est l'outil générique et c'est pas la marque. Et que si on commence déjà à rentrer dans la marque, déjà, je pense que sur le côté formation ou échange, parce qu'on n'est pas forcément sur une formation, on peut être sur des échanges dans des ateliers, déjà, on met l'outil au-dessus de ce qu'il est. C'est qu'un outil, parce que le but, c'est quand même, pour ce qui nous réunit ici, c'est quand même de faire de la musique. Et qu'en plus, de toute façon, on a perdu d'avance, parce qu'en face, ils ont des mecs qui ont été formés en bac plus 8 à faire de la force de vente, à appeler Pro Tools, donc l'outil des pros. Donc vas-y derrière avec ton Ardour, expliquer que...
Ardour Matos.
Moi, je pense qu'on est mort d'avance si on rentre dans... Si on rentre dans ce truc à la con, qui est juste un peu commercial, parce que de ce que j'ai compris, de ce que disait Aurélien sur ton expérience... En formation, en fait, les formations ne sont plus des formations à utiliser des outils, c'est juste des vecteurs de vente forcée qui se sont fait attraper par des boss.
Il y a un boulot qui s'appelle aujourd'hui technicien de cabine Pro Tools. Bon.
Ouais.
Voilà, c'est technicien de cabine Pro Tools.
C'est un code officiel.
Oui, c'est ça, c'est un code officiel. Bah, c'est, par exemple, dans l'enregistrement classique, il y a le réalisateur, il y a les preneurs de son, et puis il y a le technicien de cabine Pro Tools, parce que c'est la norme, c'est ça qu'on doit utiliser. Dans ces cas-là, pas savoir utiliser Pro Tools, mais quand je dis pas savoir utiliser, c'est évidemment que, enfin, je pense toi, comme un certain nombre de gens qui ont utilisé des multipistes ici, ils savent utiliser les logiques qui sont à l'intérieur de Pro Tools. Mais à un moment donné, là, on va te demander une efficacité, c'est que le simple qui a mis Pro Tools, ça veut dire que tu sais utiliser Pro Tools, quoi, c'est net et facile. Bon, Pro Tools, ils étaient là en 94, hein, ou 92, il n'y avait personne d'autre. Donc, Après, ce que tu viens de dire sur le Pro, moi, je trouve ça assez marrant, parce qu'en fait, je sais pas comment vous vivez ça, mais. Il y a effectivement beaucoup ça en PAO, en vidéo, en MAO. On utilise les logiciels pro. Parce qu'il y a Audacity, c'est pas terrible, et puis il y a Pro Tools, quoi. C'est un logiciel pro. En fait, je sais pas exactement quand on devrait être content d'utiliser le logiciel de Blaireau, là, de pas pro, quoi. En fait, parce que à un moment donné, tu faisais l'analogie avec le vélo tout à l'heure. Bon, il y a des vélos qui sont plus ou moins chers, qui sont plus ou moins, mais enfin, c'est des vélos qui fonctionnent, quoi, globalement. Et là, en fait, cette notion de pro derrière, elle est juste liée au fait que tu vas payer cher ta licence. Quoi. Et donc, effectivement, moi, quand je me suis retrouvé à former sur un mot ou sur d'autres choses, c'était ça qui m'était opposé. Hein. C'était qu'en face, il y avait des formations à des logiciels pro, et moi, je formais à des logiciels libres. Et donc, du coup, quand il y a ces deux trucs-là,
Je pense qu'il y a un effet label aussi sur les formations, c'est-à-dire que même, je crois qu'à l'ITEM, ils ont des certifications Pro Tools, et en fait, les étudiants, comme tout le monde leur a dit, ça c'est le logiciel de pro, ils viennent là-bas pour la formation elle-même, mais aussi pour le label. J'ai été formé sur Pro Tools, je suis certifié Pro Tools, et ils espèrent trouver du boulot avec ça. Alors je ne sais pas comment déconstruire ça,
sur le fait que il y avait peut-être plus matière, enfin tu disais, plus d'emprise pour plaisanter avec les associations, enfin les écoles
des enfants,
ça répond aussi à la question que tu posais au début de pourquoi le jardin moderne s'est mis à ça. Donc l'association a écrit un projet et en fait le projet il est découpé en trois parties: projet politique, deuxièmement, projet d'économie sociale et solidaire, et troisièmement, projet artistique et culturel. Et en fait, je pense que le fait que ce soit un projet politique, qui mériterait d'être écrit, et qui est imparfait et tout ça, c'est quand même qu'on a envie de fonctionner d'une certaine manière. Il y a la démocratie, etc. Par exemple, je crois qu'on est au... Depuis, en 20 ans d'existence, on doit être au 8e ou 9e président ou présidente. Au jardin moderne, moi je dois être le 5e directeur, et donc il y a quand même un renouvellement. Les dirigeants ne sont pas tout le temps les mêmes, les dirigeants bénévoles, les dirigeants salariés, les salariés, entre guillemets, non dirigeants. Il y a un projet politique aussi d'économie sociale et solidaire qui se heurte aux partenaires qui sont les nôtres, comme la ville, etc. Par exemple, au ministère de la Culture, donc l'État français, la condition numéro un pour recevoir une subvention, c'est de ne pas avoir de projet politique. Et nous, c'est le numéro un. Le projet politique, c'est l'article 1, le paragraphe numéro 1 de notre projet. Donc au début, ils nous ont dit « Ouais, mais vous avez un projet politique ?» Ah oui, puis on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. C'est liberté d'expression, liberté d'expression sous forme artistique, etc. etc. Puis, ah oui, ah bon, on pensait que c'était politique du genre En Marche ou PS ou machin, parce que ça, on ne finance pas. On dit « Non, mais la politique, c'est quand même pas d'être ce qu'on est à droite ou à gauche ou comment ?» Politique, c'est s'occuper de choses publiques, quoi. Se mêler de la vie publique. Ah, ok, donc on peut vous financer. Et donc, moi, je pense que le truc de... Si les écoles sont vérolées aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est des écoles sans projet politique. Le but, c'est qu'il y a un marché du travail. Déjà, c'est un peu bizarre que le travail... C'est l'objet d'un marché, mais autre sujet.
Ils sont projet politique, parce que tu n'es pas d'accord avec leur projet politique.
Oui, non mais t'as raison. Je pense que t'as raison. Ils ont un projet politique qui est d'accompagner une logique, je pense, néolibérale de concurrence avec
la droite n'avait pas tout à fait tort, hein.
Des grosses entreprises, etc. et tout. Et il y a des projets politiques qui sont plus comment on redistribue la valeur, c'est quoi la contrepartie en échange de ton temps de travail, est-ce que c'est un salaire, est-ce qu'il y a d'autres choses, et quand on veut contribuer bénévolement à un projet, c'est comment on s'y retrouve, comment on y participe, etc. Et je pense que il y a des projets sous forme associative, sous forme de SARL, sous forme de coopérative, sous forme de tout ce qu'on veut, qui ont une dimension politique qui fait que c'est possible de proposer des alternatives au modèle concurrentiel, parce qu'il y a des gros lobbies, mais ça n'existe pas que dans l'informatique. Il y a des énormes lobbies dans la bouffe et tout ça. Sur l'informatique, nous, régulièrement, on est contactés par Pro Tools, ou par Yamaha, ou par machin, pour dire, voilà, on a vu vos petits organismes de formation, on aimerait bien... on vous a choisi pour vos compétences, vous êtes géniaux. Alors on aimerait bien que vous fassiez une formation sur Pro Tools, on vous file des licences, etc. Et nous, on leur répond toujours, mais ça veut dire en fait, on va former des gens. Alors souvent, la formation, c'est financé par de l'argent collecté par les personnes, de l'argent public, etc., à utiliser vos outils, et on va le faire, on va travailler pour vous gratuitement. Et ils essayent d'imposer le fait que non, c'est parce que les outils sont géniaux. Mais il y a la même chose, les lieux de musique sont souvent des vendeurs d'alcool, ou de boissons, mais beaucoup de bière. Voilà, nous on est harcelés par Cronenbourg et Heineken pour vendre leurs produits. On a fait un deal de compromis, on a signé avec une boîte qui travaille avec Cronenbourg, et donc on a de la Cronenbourg. On a aussi des sodas qu'on préférait pas vendre, mais par contre, on a négocié une clause qui nous permet aussi de vendre des produits locaux, des produits un peu mieux, plus divers. Mais au début, non seulement ils voulaient qu'on vende la Cronenbourg, mais ils voulaient un contrat d'exclusivité qui fasse qu'on n'ait pas le droit de vendre d'autres bières que les bières de la marque Cronenbourg. Donc on n'a pas tout à fait refusé, parce qu'ils ont un apport, on a besoin d'eux aussi. Mais on a réussi à déroger à la clause d'exclusivité qui fait qu'on a le droit de vendre ce qu'on veut à côté et en plus dans leur matériel. C'est exactement la même logique que le lobby qui arrive dans une école en disant « Bon, ben voilà, je suis Pro Tools, mon outil c'est le meilleur, vous dans l'école, vous allez enseigner les gens à utiliser Pro Tools, on va appeler ça Pro, on va appeler ça l'outil des pros, et on va carrément créer des métiers qui correspondent à notre marque, etc. etc. »
Pas juste pour faire, parce que je suis pas sûr, enfin, je disais pas que ça marchait mieux dans les assos, en fait, hein. Je disais que ça marchait mieux avec les enfants, enfin, vraiment avec les ados, en fait. Ouais, non, mais c'était plus une question de pureté d'esprit, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, la question est plutôt de savoir si on est vierge de préjugés, en fait, quand on arrive à cette formation-là. Or, des gens qui s'inscrivent en formation de technicien son sont rarement vierges de, enfin, ils ont déjà une pratique, en fait. Peut-être pas grande, mais. Et cette pratique, elle s'appelle très rarement logiciel libre, en fait. Elle s'appelle la plupart du temps Cubase ou Logic ou enfin voilà. Et c'est plus ça, enfin moi c'est plus ça que je veux dire. C'est qu'en fait, quand je me suis retrouvé à discuter avec des ados en gros collège lycée de ces problématiques-là, déjà en fait ils trouvaient hallucinant de se retrouver dépendant d'un logiciel, parce qu'en fait, comme c'est pas encore quelque chose qui leur est arrivé, ça leur paraît juste bizarre. Alors que plus tard c'est quelque chose qu'on admet, en fait. Et donc c'était plutôt ça que je voulais dire, c'est que finalement je crois que en vrai. Enfin moi, en tout cas, ça m'a beaucoup moins fatigué d'aller voir ce genre de public-là et d'en discuter avec eux que d'essayer de convaincre. Enfin, voilà, déjà, c'est un problème, hein, quand même. J'étais formateur et j'en étais à convaincre les élèves que j'avais. Donc, ça dit quelque chose de comment je suis pas en train de faire mon taf à ce moment-là, quoi.
Pour rebondir sur ce que disait Guillaume, le projet politique et même valeur, ce que disait pour le Jardin Moderne, c'était d'abord un choix de valeur commune qui a fait cette décision de se tourner vers le logiciel libre. Nous, à l'échelle individuelle, c'est vraiment ça. Enfin, je me rencontre régulièrement, on me demande... Enfin, nous, du coup, on est musiciens, on essaye d'en vivre, quoi. Et on me demande des fois, mais pourquoi le logiciel libre? Enfin, c'est quoi le choix là-dedans? C'est quoi la raison? Et clairement, pour moi, c'est jamais une question de performance ou une question de ça marche mieux. Enfin, je n'ai pas du tout la prétention de dire que ça marche mieux, c'est juste que pour moi, ça respecte... Enfin, c'est plus en accord avec mes valeurs.
C'est difficile après, de dénoncer le capitalisme dans une chanson et d'avoir des
politiques. Non, c'est d'abord ce choix-là, c'est pour ça qu'on commence
d'abord par tirer une balle dans le pied, après on verra comment ça va marcher.
Non, mais je pense que comme on dit tout à l'heure, les gens prennent les choses à l'envers. La question, c'est quoi le meilleur logiciel parce que je veux apprendre le meilleur, on répond souvent, mais c'est quoi tes besoins? Donc, et là, les gens, bah, je sais pas quoi. Et donc, le vrai souci, finalement, il est là. Quoi. Si on va, on peut reparler plus vite, mais si on va acheter une voiture ou je sais pas quoi, on va se dire, bah, ok, bah, j'ai quoi comme budget, j'ai besoin de combien de places, que j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5 enfants, et donc je ne vais pas acheter une Smart si j'ai 3 enfants. Quoi. Donc en fait, on se pose des questions de quoi on a besoin, puis on va acheter le truc qui correspond à toutes les contraintes qu'on se donne. Et puis c'est pas grave, je veux dire, s'il y a besoin, on en changera, parce que de toute façon, on va pas vivre d'Italie éternelle, même si c'est pas le budget.
Et puis, la notion de meilleur, enfin.
Mais tout à fait.
Est-ce que tout le monde a besoin
c'est de meilleur? C'est parce qu'il est meilleur,
enfin, bon
c'est ça,
parce
que tout le monde a
meilleur que moi.
Ouais, voilà, la notion de meilleur, c'est les meilleurs albums, parfois, c'est les albums enregistrés. À l'arrache, parfois, c'est le premier album du groupe, et après, bah, se professionnaliser, utiliser les produits et tout, bah, il n'y a plus la même sensation, il n'y a plus, enfin, voilà, donc le côté meilleur, parfois, c'est que parce que ça coûte plus cher que c'est meilleur, c'est tout, enfin, dans la tête des gens, meilleur,
c'est celui qui s'impose.
Mais,
ouais, voilà.
C'est celui qui s'impose et qui sera utilisé par plein de gens qui vont développer leur savoir-faire à l'utiliser, c'est quand même des outils aussi, et c'est dans ce combat-là qu'ils sont, pour tout ce qui base, pour cet exemple précis, c'est s'imposer pour devenir le meilleur, même s'il y a des trucs qui s'imposent, parce que c'est pas avec des défauts, avec des gros défauts. Ben, s'il n'y a plus que, de toute façon, c'est réglé par le nombre de ventes.
En amateur, par exemple, pour enregistrer un petit peu quelque chose, en fait, ce qu'on peut faire en musique, moi je suis chez SonoWest, ils m'ont dit voilà, il faut acheter une carte son et puis le logiciel qui va avec et des choses comme ça. Là, vous, ce que vous proposez, donc, c'est d'avoir un logiciel libre, de changer notre ordinateur classique et de passer sur Linux, c'est ça?
Tu peux faire avec l'existant, alors après...
Voilà, non mais la question c'est ça, c'est que, qu'est-ce que... Ça, c'est compliqué.
Ce qui est compliqué, c'est de donner une réponse qui marcherait pour tout le monde. Mais c'est ce que tu viens de dire, je pense.
Pour un amateur, quels sont les produits et qu'est-ce qui est proposé?
Ça va passer par trois phases. Il va te falloir un ordinateur, effectivement. Ouais. Il va te falloir une carte son, probablement. Et il va te falloir un logiciel, libre ou pas. Hein. C'est pas la question. Enfin, ça sera vrai.
En fait, les cartes son sont vendues avec le logiciel.
Très souvent, il y a une version d'évaluation.
Voilà, donc...
Mais ça, c'est à la limite, rien de tout. De toute façon, c'est ce qu'on appelle le avant-pied, hein, elle sera là, donc tu pourras
pas... Qu'est-ce qui m'encourage à prendre le logiciel libre et pas prendre le...
Alors moi, si je sais pas s'il faut t'encourager à prendre un logiciel libre, je pense que le truc qui est bien, c'est surtout de prendre un logiciel, et c'est là, à mon avis, qu'on rejoint le truc, un logiciel dont tu connais quelqu'un qui sait bien l'utiliser. Et quand je dis ça, je me tire une balle dans le pied, parce qu'en vrai, il y a beaucoup plus de gens qui savent utiliser Cubase.
Mais
parce que la prescription, c'est un truc hyper important. En vrai, si je te dis là, vas-y, utilise Ardour, parce que on a parlé beaucoup d'Ardour depuis tout à l'heure, c'est un logiciel qui va fonctionner pour ça. Si t'as personne autour de toi pour t'aider sur Ardour, bah écoute, je pense que dans un mois, tu diras que t'as pas fait le bon choix.
Ouais.
Donc ça, ou sinon, il faut qu'on te donne des pistes, mais peut-être là c'est un peu compliqué dans ce cadre-là, mais qu'on te donne des pistes pour savoir où est-ce que tu peux trouver les infos. Enfin, si jamais toi t'es en galère, par exemple.
Linux et Mao.
Voilà, oui, ce que fait Olivier sur son forum ou quoi, mais.
Ou le jardin moderne.
Oui, d'ailleurs, ouais, oui. Comme t'as le jardin moderne, tu peux utiliser.
Parce qu'on encourage les gens à aller sur le logiciel libre, mais derrière, c'est très compliqué en fait.
Après, c'est.
Non, c'est pas très compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est ce qu'il dit, c'est comment on se dépatouille, quoi. Parce que si tu prends Pro Tools, tu vas taper Pro Tools dans le moteur de recherche, tu vas trouver des réponses de partout, parce qu'il y a plein de gens qui utilisent, donc tu vas fouiller un peu, tu vas trouver. Si tu utilises Ardour, tu auras quelques îlots sur Internet où tu pourras trouver des réponses.
Déjà, on verra des bons îlots que...
Des trucs noyés avec pas de banner de pub et tout. Quoi.
Après, c'est pas forcément très bon, parce que la carte son, là, la bonne ici. Nous, on a acheté le boulot il y a pas longtemps, ça nous a coûté 250 €, donc c'est un truc de base, on peut pas les mettre trop cher. Et puis au final, on a un meilleur son avec un casque, avec un casque normal, gamer, qui coûte 50 €. Et donc, des fois aussi, c'est ça, quand on va acheter logiciel peut-être, mais matériel aussi, etc., bah, si on ne sait pas bien l'exploiter dans un environnement qui va nous permettre de tirer parti de ce matériel-là, on va se retrouver bloqué de la même façon. Et donc, le fait de se retrouver dans une communauté, entre guillemets, de partage, d'échange, c'est quelque chose de fondamental, pas que du niveau de l'informatique, mais aussi du niveau de la pratique au niveau global.
Mais là, vous avez un signe du centre source, en fait. Et je pense que.
Monsieur aussi.
Non, mais du coup, en fait, je pense que tu. Quelque part, toi, comme d'autres, vous pouvez poser ces questions-là à Simon, qui lui. Tu n'as peut-être pas les réponses. Hein,
non, je ne sais pas, mais ceci, pour répondre à ta question de tout à l'heure, mais à laquelle je n'ai pas répondu. Parce qu'en soi, il y a eu plein d'autres. Je ne sais plus vraiment la question, ça ne veut rien dire. C'est que. Quand les groupes viennent enregistrer au studio, tu as soit ceux. Qui ont déjà une habitude sur un logiciel ou autre, et là effectivement on se retrouve à avoir un peu le discours que dénonçait tout à l'heure Olivier, à savoir bah, Ardour, citer, dire Ardour c'est aussi bien que ou autre. Après il y a des groupes justifiés, voilà. D'autres groupes qui effectivement n'avaient jamais mis le nez là-dedans, donc il n'y a pas forcément d'avis. Donc finalement c'est vrai que c'est plus facile. Mais par contre, ces groupes-là, en fait, c'est pas plus compliqué d'apprendre Ardour que Pro Tools, c'est juste qu'en fait, c'est t'apprends un logiciel qui est ultra compliqué de base, quand même. Enfin, ultra compliqué, je vais pas exagérer, mais c'est un apprentissage complet sur un outil. Mais justement, c'est l'outil et non pas le logiciel. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, et c'est là aussi que moi je le fais pas, et que je pense que désormais je vais essayer vraiment d'appuyer là-dessus. Je le faisais pas parce que je connaissais pas la. Je ne sais pas si on peut appeler ça la culture libre ou la communauté ou autre, mais c'est que, des trucs qui ont déjà été dits, mais effectivement, vous posez la question directement dans un forum sur Linux et Mao, vous leur allez directement vers. Vers le développeur carrément. Et quand je disais ça tout à l'heure, ce n'était pas pour dire oui, il y a un problème, donc est-ce que tu pourrais débloquer ça au développeur. C'est plutôt, comme tu disais après, oui. J'aimerais pouvoir aller dans cette direction-là, est-ce que tu peux m'aider? Et ça, c'est vrai que pour le coup, je ne l'avais pas du tout comme réflexe de faire ça. Et désormais, j'aimerais bien aller vers ça, justement, avec les personnes qui viennent au jardin moderne enregistrer. J'étais encore dans un côté très pragmatique de bah, Ardour, c'est aussi bien que Pro Tools, tu vas voir.
Après, est-ce qu'il y a dans la musique shipping en graphique? Donc, typiquement, on a créé un événement, c'est le Linux Graphic Meeting, qui existe depuis quelques années.
Ça existe, c'est Linux Audio.
Voilà, donc c'est aussi des endroits où finalement des gens qui voudraient apprendre ou rencontrer des gens avec qui après ils vont pouvoir avoir du support entre guillemets et de l'échange. Là, on va typiquement aller rencontrer des gens qui savent faire ou d'autres personnes de la communauté qui savent faire et rentrer dans une dynamique positive. Alors, c'est vrai, des fois, pour se déplacer, c'est pas toujours à côté de chez soi, etc.
Ouais, c'est assez technique quand même. Enfin, si tu penses au lac, c'est pas pour les. Mais pour l'utilisateur entrant. Moi, je pense que. Juste pour répondre jusqu'au bout à ta question, je pense que c'est le genre de question que tu peux poser à Simon. Et Simon, lui, en fait, finalement, il a un panel de. Enfin, puisqu'on en a discuté, était un peu formé, puisque surtout, en fait, si le jardin moderne était capable de trouver des interlocuteurs, c'est justement, ils ont eu ces canaux de communication. En fait, lui, il va pouvoir poser ses questions à d'autres gens susceptibles d'y répondre. Enfin, je veux dire, je peux te répondre sur une carte son à toi en particulier, mais j'aurais pas résolu le problème d'autres gens ici, en fait. Enfin, on peut en parler après, en fait, c'est ce que je veux dire, mais je pense qu'en vrai, effectivement, là, vous avez au jardin moderne, bah, maintenant, quelqu'un qui est capable d'agir là-dessus. Après, il y avait des formations qui étaient proposées à l'utilisation de logiciels libres pour l'enregistrement multifice, mais qui n'ont pas eu lieu. Bon voilà, après, c'est faute de stagiaires. Mais après, encore une fois, il faut avoir compris la problématique. Enfin, c'est-à-dire qu'en lisant l'objectif de la formation, il faut se dire que c'est ça qu'on cherche à faire. Or, c'est déjà avoir compris beaucoup de choses. Mais du coup, voilà. La réponse pour moi, c'est d'aller voir Simon et que Simon te réoriente sur autre chose. Et
bah, sur les ateliers, pour certains ici, peut-être pourraient d'ailleurs relater leur expérience par rapport à ça, mais. Il y aura des formations payantes Pro Tools ou Ableton Live, nous-mêmes on en fait, au jardin moderne. Mais effectivement, avoir un atelier dans une MJC ou autre, c'est quand même plus facile de trouver des ressources comme ça, hormis le prix d'ailleurs, mais le côté collaboratif sur du libre que pour trouver l'info en fait.
Personnalisé. Maintenant,
quel est votre but aussi?
Comment?
Si le but c'est d'avoir une belle maquette, un bel enregistrement, oui. Tu n'es pas obligé d'acheter l'ordinateur et la carte de son, ça suffit. pouvez cotiser ici et venir le faire assez bon.
Oui,
on a fait un petit atelier.
Parce que voilà, il y a des années, donc c'était Pro 24, donc le qui était QS, donc c'était vraiment. Et c'était, pour moi, c'était simple, moi, c'était facile, quoi. J'avais branché mon truc et puis il y avait des choses qui étaient. Maintenant, je m'y remets et j'ai l'impression que de j'ai l'impression que ça, les choses sont compliquées.
Bah, t'as qu'à ressortir ton Atari.
Bah, je l'ai plus, mon
Atari. Ça coûte pas cher, hein, tu sais.
Ouais,
100 euros, t'en trouves. Hein.
Un élément.
Tu retrouveras ton Pro 24 et tout, il y a vraiment
tout
qui, là.
J'ai l'impression que les choses ont complètement. Je sais pas. J'ai l'impression que le fait de dire voilà, on va rajouter un logiciel. Les outils, il m'a déjà passé sur Linux, déjà ça me.
Du coup, pour.
Ça me fait peur.
Parce que sur ta question, je pense que Arduino n'est pas moins compliqué que pour tous Cubase. Effectivement, quand tu vas acheter la carte son, tu vas sans doute avoir un Cubase version Lite.
Cubase Lite,
ouais, un truc gratuit, entre guillemets, avec.
Ouais.
En pratique, sans doute que tu vas, au bout de 2 mois d'utilisation, te rendre compte que la version Lite, elle sert à rien parce qu'elle est très limitée. Et donc tu vas devoir l'acheter, donc tu vas déjà te retrouver devant un mur assez rapidement. Tu auras pu apprendre à penser à ça.
Ça dépend des besoins. Tu peux...
Ça dépend des besoins, mais c'est quand même.
C'est
quand même
pour ça.
C'est le principe.
Ça peut te suffire.
Juste, enfin, je voudrais relativiser quand même, parce que c'est vrai que bon, alors, j'ai pas dû être très bon un jour où. un logiciel d'enregistrement multiple, c'est ça dont on parle, c'est un truc complexe, mais c'est pas non plus un truc immensément complexe. En fait, la question, c'est surtout qu'est-ce que tu veux faire avec. Si tu veux enregistrer, mettons, 5-6 pistes. Faire un tout petit peu d'édition, c'est-à-dire enlever un peu les bruits, machin, tout ça, et sortir le truc, c'est pas non plus complètement insurmontable.
Une demi-journée, c'est bon, quoi.
Oui, en fait, voilà, la question, c'est quel est le niveau de détail auquel tu veux arriver à la fin avec tout ce truc-là. Tu parlais de workflow tout à l'heure. Le workflow, c'est, enfin, je sais pas si ça paraît à tout le monde, mais c'est en gros, qu'est-ce qu'on met comme. C'est quoi notre chaîne ?
La façon de travailler.
Ouais, façon de travailler, les chaînes d'outils, en fait, qu'on utilise. Un workflow, ça peut être très simple. Si pas, enfin, peut-être qu'Audacity, ça correspond d'ailleurs à ce que vous faites. Si par exemple, je sais pas, vous avez une guitare, une voix, enfin, vous êtes deux, je dis n'importe quoi, vous allez avoir besoin de 2 pistes, de micros, de câbles, machin. Bon, Audacity, ça fera peut-être le boulot. Ardour, ça fera le boulot très simplement aussi si c'est 2 pistes et que c'est comme ça. Ça, ça va aller. Le problème, c'est par contre, si tu veux commencer à dire, bon, bah, ok, je veux faire ça, mais après, je voudrais sur scène utiliser ça, puis mettre un boucleur, puis machin. Bon, bah, là, ouais, évidemment. Au fur et à mesure, ces choses-là, elles vont devenir complexes. Et on peut faire des choses éminemment complexes et du coup super intéressantes, enfin juste sur le plan des possibilités que ça peut ouvrir. Mais enfin, on n'est pas du tout obligé d'arriver à ce niveau de complexité. Sur Simon, il y a quand même aussi la nécessité que tu sois capable de transmettre tout ça après. Donc, ça c'est.
Alors là, pour l'occurrence, pour le coup, genre, je ne sais pas encore et effectivement. Mais l'idée c'est aussi de d'être plus apte que quand on s'est rencontré, bien. Mais après aussi de et là je reviens encore ce que je leur trouve, c'est ça que j'ai découvert aujourd'hui sur le côté communauté, c'est qu'après je peux rediriger vers d'autres personnes que qui sont plus compétentes que moi pour aider les personnes, quoi. Et de ne jamais être bloqué comme ça, je trouve ça c'est intéressant aussi, c'est Alors, ça veut pas dire qu'après il y aura quelqu'un qui voudra vous aider, hein, mais
là, ceci dit, ben, c'est quand même assez vrai, enfin, on parlait de culture du tout à l'heure, t'as parlé un peu de ça Florian aussi. Moi, quand j'ai commencé à utiliser Linux, j'étais à la fac, en fait, et donc, bah, comme n'importe qui commence sur Linux, je savais rien faire. Et donc, dans un premier temps, en fait, les gens qui m'ont aidé sont des gens qui savaient pas faire grand-chose, en fait. Et puis, ils m'ont aidé sur des trucs de base, donc j'ai commencé à passer, on va dire, sur une espèce de cercle un peu plus grand, où je savais faire un peu de trucs. Moi, j'ai pu aider des gens qui savaient rien faire, et les gens qui m'ont aidé sont des gens qui savaient faire un peu plus. Et en fait, il y a vraiment un truc comme ça qui existe... dans la communauté des logiciels libres, alors encore une fois, c'est pas un truc de bison d'ours, mais l'erreur principale avec un logiciel libre, c'est de s'enfermer dans sa chambre et de pas poser de questions. C'est pour ça que je te disais d'aller voir Simon ou quoi, et puis même avec l'informatique en général, je pense que c'est pas que avec le logiciel libre. C'est, en fait, on n'est pas face à un truc où il faut deviner comment ça marche. C'est pas possible, en fait, le trois quarts du temps. Et là, il y a vraiment un... Je crois qu'il y a une envie, en fait, dans la communauté des libres, enfin, dans certaines communautés libres, d'émancipation et d'apprendre, en fait. Donc c'est pour ça que j'étais content de vous aider, notamment, mais... Et ce que tu racontais tout à l'heure, hein, sur le fait que en fait, tu t'es retrouvé face à des problèmes et tu as trouvé ça cool de les résoudre. Alors pourquoi tu as trouvé ça cool de les résoudre ? Bah, parce que bon, la recherche c'était peut-être pas cool au moment où tu as cherché, mais tu as trouvé en fait. Et quand tu as trouvé, non seulement tu as résolu ton problème, mais voilà, tu as passé un grade en fait, tu as fait un truc de plus.
En fait, c'est surtout le côté comprendre comment ça marche.
Bah, c'est ça.
Que la situation de dépendance vis-à-vis d'un Windows, par exemple, c'est j'appuie sur un bouton, ça fonctionne pas. Et là, du coup, après, c'est. il faut sortir les RAM et éventuellement réinstaller. J'ai oublié où je voulais aller. Mais enfin, cette situation de comprendre aussi comment ça marche, c'est un peu lié à la liberté d'utilisation, de l'installer sur notre bécane, de tester. Si t'es pas du tout familier avec Linux, par exemple, et que t'as pas forcément d'outil-mètre, j'ai envie de te dire, mais t'y mets pas. Enfin, ça sert à rien de se forcer.
Un truc que tu peux faire, après, si t'as peur de détruire ton ordinateur, tu peux tout à fait avoir la possibilité d'installer ça sur une clé USB, ouais, qui sera non destructif pour ton ordinateur. De tester Brasic dessus, quoi, mmh, de voir un petit peu l'écosystème au niveau logiciel, et puis après, tu te dire, ah bah tiens, j'ai envie de pousser un petit peu et potentiellement faire une installation. Mmh. Tu t'achètes ta carte son chez nos copains là à côté, qui sont très sympas, je les aime bien, moi. Et si tu veux l'utiliser sur ton Windows ou sur Linux, voilà, c'est possible.
En parenthèse, Ardour fonctionne sous Windows et sous Mac depuis. Un an, deux ans,
peut-être
pas.
Si j'entre
parenthèses. Ah oui, donc c'est pas si.
Ah, d'accord. Il y a un Ardour
installé. C'est juste à côté là, tu peux essayer. Hein.
Okay. On n'est pas obligé de passer tout d'un coup.
Non.
un Linux installé, c'est pas si compliqué non plus. Si tu as utilisé un appareil ST, je pense que tu es DPC entre temps, tu t'y retrouveras. Après, peut-être c'est au moment de l'installation que c'est plus délicat. Et que c'est possible d'avoir des coups de main.
Ouais. Ouais, juste pour te démarrer, quoi, le truc.
Et sinon, c'est le.
C'est pas si compliqué.
Que je connais. Fonctionnement de bureau, d'icônes. Pardon, un Linux est installé, il y a moins de temps qu'une mise à jour Windows. Ça dépend.
Ouais, faut pas rentrer dans ce.
Ouais, faut pas non plus le survendre, quoi. Mais juste.
Elle installe des cannes graphiques, hein.
Oui, non, mais bien sûr. Enfin, c'est
pas possible. J'ai essayé Ardour sans acheter Cubase sur Windows.
Ça, c'est pas beaucoup de. Enfin,
je trouve que la clé USB, c'est un bon moyen de tester, la clé live.
Et t'en as même, en fait, qui peuvent être persistantes. Ça veut dire que. Non, mais c'est vrai, en fait, parce que ce qui se passe, c'est que souvent tu démarres sur une clé USB, t'éteins ton PC et tout ce que t'as fait dessus, ça disparaît. C'est quand même chiant si tu veux tester le truc.
Non, mais c'est vrai.
Quelques temps. T'as des clés USB persistantes, c'est-à-dire que tu la fous dedans, tu joues avec, tu composes ton morceau. J'ai fait ça avec Librasic, hein. Pendant 2-3 semaines, etc. Et puis quand tu éteins ton PC, tout ce que tu as fait est encore là, en fait. C'est-à-dire que les données et les informations que tu as bidouillées sont persistantes. Donc ça peut être un bon moyen de tester le truc, quoi.
Et nous, c'est ce qu'on voudrait mettre en place d'ailleurs au sujet de la moderne, c'est d'installer Librasic, distribution que Olivier a fait, et que les groupes puissent partir avec. Le même environnement qu'ils ont vu pendant un jour, deux jours, trois jours au studio, ouais, et qu'ils ouvrent leur session chez eux avec les mêmes effets, les mêmes, enfin voilà, soit de façon, alors peut-être sur un ordi qui sera un peu moins performant, mais une fois que tu vis tous les
ouais, ça parle beaucoup de Pro Tools et tout, des versions de logiciels sous Windows. Perso, j'utilise Reaper. Gratuit, il y a une période d'essai de 60 jours, mais au bout de 60 jours, tu as une pop-up, tu attends 5 secondes et puis c'est bon. Tu peux acheter une licence pour usage personnel ou jusqu'à une certaine. Enfin, tant que tu ne génères pas plus d'argent qu'une certaine somme. Et il y a des versions expérimentales sous Linux. En fait, ce que tu peux peut-être faire dans un premier temps, c'est te faire la main sur Reaper ou sur Ardour sous Windows. Peut-être plus tard passer sur Linux et comme ça que la transition.
Je pense vraiment que tu devrais bien avoir ce que tu veux. En vrai, t'as plus de questions que juste Ardour. Tu poses des questions sur la carte son. C'est vrai pour tout le monde. En fait, c'est un apprentissage. Le studio, il est fait pour ça. C'est vraiment.
Il le vend mieux que moi, mais c'est vrai que tu peux venir. Mais je sais pas si. Enfin, on arrive plus ou moins vers la fin de l'heure qu'on avait annoncé à l'origine, et je me dis que ce serait peut-être l'occasion pour certains qui ont fait des ateliers. C'est pour ça que je me dirige vers toi. Non, mais après, je sais pas, peut-être d'autres de faire un petit partage d'expérience sur ce qu'ils ont fait, si vous voulez, évidemment. Mais.
Ouais, j'ai pas compris la question.
de relater en fait ce qui se passe dans vos ateliers et puis comment c'est reçu, comment c'est.
C'est un peu particulier. Nous là, on a commencé fin octobre, donc c'est vraiment tout récent. Il faut savoir que la maison est en trois quarts sous Mac OS. Le dernier quart, ça doit être la compta qui est sous Windows. C'est pour la même raison que vous ici. Donc voilà, il y a une culture du lit qui n'était pas présente, voire pas du tout, dans la maison, sauf pour MuseScore, dont on a parlé tout à l'heure, au sein de la formation, du cours de formation musicale. Donc voilà, en fait, nous, la problématique, c'est de découvrir, voilà, la culture, de faire découvrir la culture du livre aux gens qui viennent à l'atelier. Donc, il y a trois personnes ici présentes. Mais aussi aux collègues, en fait. Quand tu parles d'Arduino ou de Raspberry Pi, je pensais que c'était vachement plus connu que ça, tu vois, mais en fait, pas du tout. Enfin, on est vraiment un microcosme assez restreint, au final, j'ai envie de dire. Voilà, donc nous, notre expérience, enfin mon expérience là-dedans, elle est vraiment toute jeune, toute récente, et encore assez fragile. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre par rapport à ça. Voilà. Mais non, moi, par contre, j'aurais bien voulu entendre les questions ou ce que tu as commencé à faire, les remarques des gens qui ont assez peu pris la parole ce soir, parce qu'on a tout, enfin, les discussions ont tourné autour de 4-5 personnes. Voilà.
C'est sur la conception des logiciels libres. Est-ce que la conception est ouverte aussi? Parce que souvent dans le livre, on a beaucoup de liberté en termes d'individus, mais collectivement, est-ce qu'il y a réellement, dans la musique en tout cas, la conception libre, c'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir contribuer à proposer des fonctionnalités
ça
dépend des communautés,
ça dépend des développeurs.
Oui,
en gros, le logiciel libre, c'est juste un moyen. Alors, c'est les quatre libertés que je t'ai dit tout à l'heure.
Et justement, cette liberté-là, elle serait presque intéressante à rajouter. Mais...
Bah, du coup, en fait, tu as des gens qui ont décidé justement d'y ajouter une touche éthique et donc de dire que justement c'est une façon d'émanciper encore une fois les gens de l'outil informatique dans le sens où c'est plus l'outil qui les contrôle mais eux qui contrôlent l'outil. C'est un peu la phrase type. À côté de ça, tu as aussi des sociétés qui sont cotées en bourse et qui font du logiciel libre, donc avec des problématiques qui ne sont pas du tout les mêmes et des philanthropies uniquement plus différentes.
Microsoft, Apple font aussi.
Oui, c'est vrai. Des énormes mécènes.
Ils font aussi, ouais.
Des
papiers aussi,
quoi.
Alors, je suis informaticien des quand il y a deux ans, je cherchais un séquenceur MIDI sur Linux. Toi, je tombe sur un logiciel qui était un fork d'un autre logiciel.
C'est 64.
Et le gars avait repris ça, c'est un développeur qui a repris ça sur son temps libre à la base, mais qui n'avait pas forcément beaucoup de direction. Et j'ai pu voir que directement sur son YouTube, toutes les personnes qui donnent des retours qui ont besoin de telle ou telle fonction, il est très ouvert et il implémente tout ce qu'il peut. Les personnes qui donnent des patchs pour implémenter des fonctions, il les intègre directement. Et au final, il évolue très rapidement et devient très... Donc pour dire que ça peut tout dépendre du développeur, s'il est ouvert à ça et s'il y a des utilisateurs qui profitent de cette...
Et forum de discussion classique qu'on retrouve sur plusieurs types de communautés.
Il y en a plusieurs, vraiment. Il n'y a pas qu'un seul modèle.
Ouais.
Mais en fait, là,
c'est bien par rapport. Il y a un grand bouquin qui est super bien. Il est passionnant. C'est un livre jaune avec deux épées croisées, genre, etc. C'est vrai qu'il explique vraiment hyper bien différents schémas d'organisation dans le monde du livre.
Mais en gros, tu dois savoir, mais en fait là on a parlé de libre et de Linux en fait depuis le départ, mais Linux, vous n'aurez jamais un Linux à installer, en fait ça marche pas. Il y a toujours une espèce de couche au-dessus qu'on appelle une distribution, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est ce truc-là que vous allez installer. Et donc on a parlé d'Ubuntu tout à l'heure, Ubuntu c'est une distribution, donc un système d'exploitation que vous pouvez installer sur votre ordinateur. C'est généralement à ce niveau-là que ça se passe. Ubuntu, c'était le slogan, c'était Linux pour les humains. Donc l'objectif d'Ubuntu, c'était de faire en sorte que ça soit possible pour tout le monde de l'installer facilement, d'utiliser facilement. Avec, voilà, c'était ça. À côté, il y a Red Hat. Red Hat, je crois que c'est le même Red Hat Enterprise. Bon, bah là, voilà, c'est très clair. On est sur ce qu'on appelle du pro-logiciel. Les mecs s'adressent à des pros et ils sont cotés en bourse, tout ça. Donc, en fait, la question est plutôt à ce niveau-là. À mon avis, selon ce que tu choisiras comme distribution, tu vas aller plus ou moins vers quelque chose où il y a une grosse communauté et du partage, ou alors on est vraiment sur un service de client à vendeur. Et voilà, donc tu peux installer Ubuntu qui est une solution simple et tout ça. Nous, ce qu'on avait choisi à l'époque, on a installé le studio ici, c'était d'installer Debian. Debian, c'est une distribution Linux avec un engagement social en fait. Enfin voilà, avec une charte qui a été écrite et qui justement colle à notre sens à cette idée d'émancipation et de formation et de partout, c'est pour tous quoi. Voilà. Et donc là, voilà, c'est notre avis en tout cas. Debian fonctionne et Librasic du coup est développé par Olivier avec je sais pas trop quel sur une base de Debian. Donc peut-être c'est plutôt ça la question, c'est de savoir en fait si selon la distribution que tu vas choisir, les trois que je viens de citer, mais peut-être faudra qu'on fasse un petit bilan de tout ça, que tu puisses envoyer par mail à tout le monde, parce que là en fait on balance des noms, mais ces trois trucs là sont plutôt des choses qui sont qui vont favoriser ce genre de comportement. Et après individuellement il y a ce que tu racontais, c'est-à-dire il y a les développeurs de chacun des logiciels que tu peux aller voir. Maintenant, le développeur de Sec64, c'est un mec qui fait ça très probablement bénévolement avec quelques noms. Et le premier truc que tu vois dans un logiciel libre, c'est que ce logiciel n'arrive avec aucune garantie, ce qui veut dire que peut-être demain, ce mec, il arrête de développer ce logiciel. Ce que Red Hat garantit, c'est qu'ils n'arrêteront pas demain de développer Red Hat. En gros, c'est ça.
Après, c'est même du développer, mais peut-être quelqu'un d'autre le reprendre.
Bien sûr, mais c'est
pas vrai. Alors que Red Hat, s'il se prend une claque au CA,
c'est ça. Boum, plus de GPU, les GPU sont disparus, mais il peut ouvrir un PG qu'on était fait avec.
J'ai posé des questions du coup sur le modèle un petit peu d'organisation libre. Le livre s'appelle L'utopie du logiciel libre, il est vraiment très très bien. Il va vraiment un peu dans le détail quand même sur plusieurs schémas, notamment celui de noyau Linux, qui est très particulier, très pyramidal, celui de Debian, qui est complètement différent, et celui de Wikipédia, parce que le Wikipédia, c'est quand même vachement lié à ces modèles d'organisation, qui est encore vraiment très différent. Du coup, là, ce bouquin-là, c'est vraiment une super ressource sur ce sujet. L'utopie du logiciel.
Merci. Et par rapport à l'invite de Simon et une remarque de je sais plus où, moi, je trouverais vraiment bien que si ça se termine bientôt, que ce soit les personnes qui aient pas parlé ou très peu parlé, pas comme moi, qui disent, soit qui en profitent pour poser des questions, ou qui donnent un peu le.
Et pour les gens qui sont peut-être un peu timides, moi je vais rester dans l'entrée, donc s'il y a des gens qui veulent. Ça peut être mieux aussi d'avoir des discussions informelles.
Oui, c'est vrai, il y a un train à boire.
Ça va tout guichet. Et d'ailleurs, ça fait pas les filles. Ouais, tu en fais une clope.
Ils aient bien de ramener, et puis aussi il y a un fond de père ou autre.
Ah, ça va.
Il y a la grignote. Donc, pour se refaire après cette longue discussion.
Parmi les plus silencieux, là, c'est, si vous voulez, c'est votre moment.
Après, ce sera trop tard.
Et sinon, sur ceux qui n'ont pas d'usage, qui n'avaient pas d'usage jusqu'ici, ni trop d'informatique, ni trop de Linux, je pense à toi, il y avait toi aussi, je crois. Et puis, dans ce que j'ai retenu autour de table, vous là-bas aussi, je crois, on étudie à toi.
Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des ordinateurs à dispo ou est-ce qu'on emmène son ordinateur pour les séances, il faut emmener son ordinateur.
Il y a un ordinateur dans le studio d'enregistrement. On va en discuter aussi.
C'est l'avantage, tout est équipé.
Non, parce que je croyais que c'était pas mal.
Ah non.
Comme je connais pas le.
Pour en discuter.
Je serais curieux de savoir si on t'a relativement convaincu que c'était peut-être pas tout trouvable.
Qui, moi ?
Toi, ouais.
Ah oui, mais en fait, je pense que j'étais déjà convaincue. C'est plus les autres gens qui disent « Ah, ça marche pas ». Enfin, on m'a dit ça pour plein de trucs de Linux. J'ai utilisé Linux pendant plein d'années. D'accord. J'ai installé Linux sur plein d'ordinateurs et du coup, je sais très bien que ça marche. Après, du coup, quand t'as que ça autour de toi, tu te dis « Bon, bah, comment je vais apprendre ça ?» Du coup, si justement, il n'y a pas cette personne qui sait un peu plus que moi... Mais je pense, enfin, si je serais pas venue si j'étais pas déjà convaincue, en vrai. Enfin, du coup, j'étais plutôt à me dire, tiens, bah, du coup, au lieu de chercher toute seule dans mon coin, justement, enfin, ce que j'aurais fait, je pense, si ça c'était pas arrivé, je pense que je serais allée sur Internet et j'aurais cherché par moi-même comme je fais pendant des années et puis j'aurais trouvé. Et voilà, après, c'est tout, je me disais, ah bah, c'est justement mieux, enfin, d'aller chercher des informations comme ça, moi je connais très peu le jardin moderne parce que je ne suis pas depuis non plus très longtemps, du coup j'ai dit ah ouais c'est cool, enfin, j'ai juste eu des formations payantes où je me dis j'aurais jamais même payé ça, du coup j'ai fait bon bah on verra bien, mais du coup là je sais qu'il y a un centre de ressources, enfin ça m'a plein de trucs. Au fur et à mesure de discussion, on a répondu à mes questions, notamment juste où je me disais « Ah oui, tiens, est-ce que ça s'installe aussi sur Debian ? Est-ce que c'est s'installe sur Windows ?» Enfin, on a répondu à mes questions. Du coup, non, je crois que... Enfin, moi, j'ai pas eu d'autres questions que ça. Et que je me disais juste un moment, mais c'était un peu dur de prendre la parole avec tout le monde qui parle bien sur les autres, des fois. En effet, je rebondis sur un truc qui avait été dit, je sais plus où, que je trouve que pour soit utiliser des logiciels libres, enfin se mettre à utiliser des logiciels libres en étant conscient de le faire, ou de se mettre à utiliser Linux, je trouve qu'en effet, d'abord, c'est c'est d'abord un choix politique, je trouve, un choix éthique, et du coup, il faut avoir. Avoir envie de le faire, et que en plus je trouve que moi dans ma situation où j'ai pas de thunes et j'ai pas envie d'en avoir des milliards, ça me permet d'accéder à des choses qui normalement sont pour des gens qui ont plein d'argent et que moi j'ai pas envie de m'en avoir, et du coup je me dis c'est cool, je peux quand même faire de la musique, je peux quand même faire ce que je veux, et ça m'évite de passer mon temps à craquer des trucs qui marchent pas ou je me ramasse des virus, enfin bon, et que ça, déjà, c'est bien. Et en plus, ça y met l'éthique de la politique qui va dans le sens de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et en effet, je suis d'accord avec ce truc de créativité aussi, qu'en fait, ça amène un truc créatif de ne pas faire comme tout le monde, de toute manière, et d'avoir cette ambition-là. Je trouve que ça répond un peu à la question que tu posais, mais pourquoi utiliser ça? Pourquoi utiliser Ardour plus qu'autre chose? Je trouve que d'abord, c'est une envie politique et éthique, et que je trouve que ça passe d'abord par là, parce que sinon, en effet, il y a un choix... énorme, et que en effet quand on part de zéro on peut apprendre n'importe quoi, de toute façon ce sera dur au bout du cas, j'ai l'impression, enfin moi je trouve, et que après voilà.
Je partage en fait ce que tu dis, je trouve que c'était intéressant de vous entendre et de voir en fait comme vous êtes aussi convaincu par ça, et je trouve que ça correspond à ma vision des choses, et ça fait du bien de l'entendre, je trouve, de voir qu'il y a des gens qui ont réalisé et qui sont dedans, et parce que moi j'y connais rien, je suis vraiment débutante et novice là-dedans, et je trouve que c'est une bonne voie. Je sais pas, ça donne envie d'adhérer.
Eh ben, bienvenue.
Je pense qu'on peut aller voir. En fait, finalement, je sais pas si ce serait évidemment très très simpliste de résumer ça à ça, mais finalement, c'est plus, si j'ai bien compris, hein, c'est pas moi mon analyse, c'est à vous entendre, vous qui êtes érudit sur le sujet, c'est finalement plus la culture que l'outil en fait qui est à mettre en avant pour justement donner aux gens l'envie de participer. Est-ce que c'est trop simpliste, justement?
Non, je pense que c'est pas mal. Tu veux pas te battre sur les features, les trucs, etc.
Mais je pense que c'est il faut avoir envie. Si t'as pas envie, en fait, c'est sûr que ça sera pas plus facile qu'autre chose, et en plus, il y aura plein de raisons pour trouver que c'est pas bien. Juste pour finir, parce qu'en fait, on peut avoir un côté, comme tu disais, prosélyte et positiviste un peu sur tout ça. Il y a aussi des très mauvais logiciels libres. Non, mais c'est vrai. Et en fait, si vous commencez à faire de la MAO avec Linux, ou même simplement avec des logiciels libres, là on a parlé d'Ardour, alors ça je pense que vous avez retenu le nom parce qu'on l'a dit plein de fois, mais il y aura aussi plein d'autres logiciels que vous avez rencontrés, et il y en aura peut-être des super nazes en fait dans le jeu, pour des tas de raisons, hein, parce qu'en fait le mec qui l'a développé il l'a pas fini, ou parce qu'il avait vraiment un besoin très particulier qui est pas du tout le vôtre, ou parce que juste il est nul, enfin j'en sais rien.
Il y a des logiciels proprio qui sont méga pourris aussi.
Mais justement, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que, oui, mais c'est pas le fond de la question. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peut-être vous allez rencontrer ça, et ça ne veut pas dire que l'ensemble de ces logiciels libres sont nuls. Pas plus que d'ailleurs, rencontrer un bon logiciel voudrait dire que l'ensemble de ces logiciels sont bons en fait.
Et puis des fois, il y en a qui ne sont pas jolis, qui ne semblent pas sympas, mais en fait, derrière.
Ouais, mais alors le jour où tu arrives à vendre ça.
Ouais. Non, je ne suis pas là pour vendre quelque chose.
Ah, oui, non, mais
la philosophie aussi, pendant la musique sous Linux, c'est qu'il y a un logiciel pour un usage, et ça, faut ça rentre trop, c'est pas.
La CCT vrai, ça allait plus trop, en fait. Ouais, c'est bon, moi, j'aimais bien ce truc-là, mais en fait, en vrai, maintenant, c'est... Enfin, on a des logiciels qui ressemblent vraiment beaucoup au logiciel hôte qui
existe. Du LMS, il y a du aussi.
Oui, voilà, exactement. Non, c'est
t'as toujours possibilité d'aller plugger sur d'autres trucs. C'est intéressant, quoi. C'est très modulaire, en fait.
Puis on a parlé de hardware, mais des logiciels libres pour faire de la musique, qui vont du truc pour s'entraîner à faire du piano, jusqu'à l'éditeur de partition, jusqu'à l'enregistreur, le séquenceur, enfin, tout champ. Je pense que sur Linux MAO, on doit en avoir 1500 de répertoriés. Donc, évidemment que n'importe qui d'entre nous ici essayerait les 1500, se dirait « Ah, celui-là, il est vraiment pourri !» Donc, il y a du choix, quoi. Il y a vraiment du choix. Il y a un truc qui ne marche pas, qui ne correspond pas, ou qui ne correspond pas. Enfin, moi, je fais comme ça, je teste, ça marche, c'est bien, ça me saoule, je jette, j'en utilise un.
Et d'où l'intérêt d'avoir un prescripteur comme toi sur Linux MAO ou comme Simon
c'est ce que j'allais dire, justement, c'est Linux MAO, là, peut aussi être un énorme argument pour se lancer là-dedans. Fast Panel aussi. Fin...
C'est le point commun entre le logiciel libre et les variétés de légumes anciennes, un peu, quoi.
Ouais. Belle conclusion.
Et je lance une invitation, mais peut-être qu'on pourrait, pas forcément avec les mêmes personnes, parce qu'on a tous d'autres choses à faire, mais garder le principe d'une rencontre dans le réel, qui soit une rencontre musique et logiciel libre, je sais pas, hein, ça pourrait être une fois par an, une fois tous les deux ans. Ça pourrait être ici ou ailleurs, ça pourrait être initié par le Jardin Moderne ou par d'autres.
C'est bon, c'est vendu.
Ouais. Et puis, je sais pas, élargir le cercle et puis essayer de construire un truc dans la durée là-dessus, quoi.
Alors juste, on en parlait avec les portes logiques avant de venir. On se disait, si jamais il y avait une seconde rencontre ou autre chose, en dehors du Festival des Libertés, pour le coup, parce qu'il faut rappeler que ça fait partie d'un festival, cette rencontre aussi, que bah, peut-être à Tréguin Quimper, il y aurait moyen de faire quelque chose là-bas. Voilà.
C'est noté.
La plage est trop grande.
Il y a 27 km de côte. Ouais, très bien, voilà.
On a pas remis
la des bouchons de système. Non, mais voilà, enfin, si les gens sont motivés et que par contre, si on est que deux pour organiser le truc, c'est pas la peine. Enfin, que ce soit vraiment quelque chose de collectif aussi.
Alors, je voulais profiter un peu de l'occasion aussi, parce que tu parlais du festival, je suis partie de l'équipe qui organise ça. Alors, je vais pas parler trop
bien. Tu t'as pas dit comment tu t'appelais, parce que t'es arrivé en retard.
Je m'appelle Mathieu.
Monsieur Mathieu.
Voilà. Monsieur Mathieu. Et, j'aurais jamais dû dire ça. Et, alors, juste pour vous expliquer, le festival, hein, c'est quelque chose qu'on a voulu organiser autour des questions de vie privée, mais aussi le rapport qu'on a un petit peu avec la technologie, est-ce qu'elle nous enferme, est-ce qu'elle nous ouvre sur le monde, etc. Et ça a commencé en vendredi dernier, ça se termine dans le samedi, mais sans doute un petit peu le dimanche 9-10. Et voilà, je voulais vous remercier d'être venu, je voulais remercier le Jardin Moderne de nous accueillir, parce qu'en plus on n'a pas eu le temps de trop en parler, et la rencontre était assez chouette, vous avez dû voir que je suis arrivé en retard. Et il y a, en plus de cette table ronde là, encore beaucoup d'événements qui vont se passer autour des questions de logiciels libres, etc. Par exemple, il y a une dizaine de médiathèques qui vont faire des ateliers sur la vie privée sur Internet pour tout public, plutôt pour des jeunes, etc. Il y aura une conférence sur le logiciel libre. Puis nous, ça nous faisait plaisir aussi d'être ici, parce que la soirée d'accueil, on l'a fait aux Ateliers du Vent. Là, cette semaine, on est là. Et puis la soirée de fermeture, on la fera à Les Laboratoires. Et c'était un petit peu aussi tisser des liens physiques au travers des structures. Et bon, je suppose qu'il va y avoir des flyers du festival qui traînent. Sinon, vous cherchez Festival des Libertés Numériques sur Internet et vous tomberez sur le programme où il y a encore à peu près 30 événements à Rennes et autour. Et voilà, merci à tout le monde. Merci aujourd'hui de nous accueillir.
Merci d'être venu.